La maîtresse de pension, Madame Scott, reçut Rose avec une bonté simple qui la mit aussitôt à l'aise. Les autres élèves la regardèrent un peu curieusement. Sans doute elles trouvèrent à redire à sa toilette, peut-être même à son teint trop foncé suivant elle, à ses cheveux trop en l'air. Mais il est point sûr que cette dernière critique fût exempte de toute envie chez celle dont les cheveux flottaient aussi sur leurs épaules, mais n'y bouclaient pas. Rose, d'ailleurs, en tirait si peu vanité, et l'oubliait si bien qu'elle finit par l'oublier elle-même. Quelques-unes la prirent bientôt en singulière amitié. Les plus récalcitrantes se contentaient de l'appeler une originale. Toutes la recherchaient, dans leur jeu, leur promenade. Sa vivacité naturelle y mettait de l'entrain et de l'émulation dans la classe. Aussi Madame Scholl n'eut-elle pas lieu de regretter ce qu'elle avait fait pour Rose et pour M. Darveil. Elle le dit tout franchement à celui-ci quand il vint prendre congé d'elle. Et comme c'était une personne juste, qui faisait la part des autres et non point seulement la sienne, elle lui donna clairement à entendre que si Rose continuait à tenir tout ce qu'elle promettait, elle en ferait une sous-maîtresse et qui sait, peut-être se l'associerait, car elle commençait à vieillir et ne pouvant renoncer à son pensionnat, sa seule ressource, elle y aurait besoin d'aide. « Eh bien, savez-vous, pour que son instruction marche plus rapidement au complet, faites-lui donner quelques leçons particulières de musique et de chant. J'en paierai la moitié, » conclut M. Darvay. Et ainsi fut, comme on disait anciennement, et comme je me rappelle l'avoir lu à Paris sur le mur d'une très vieille maison, au bas d'une inscription en lettres gothiques, qui, après avoir relaté je ne sais plus quelle décision prise, en était aussi par ces mots l'exécution, et ainsi fut. Voilà comme quoi Rose, dont les cahiers de classe étaient des mieux tenus, devint encore assez bonne musicienne. Mais pourquoi M. Darveil venait-il prendre congé de Mme Scholl? Ah, c'est qu'ayant beaucoup vécu à la montagne, au printemps, la montagne le rappelait insensiblement, comme elle rappelle les troupeaux qui brament après elle. Se rendre à cet appel avait été aussi une des clauses du traité secret de M. Darveil avec Mme Scholl, qui, le connaissant, ne fit aucune objection. Qu'on ne s'attende donc point de notre part, ni de la sienne, à des dissertations sur le meilleur système d'enseignement, ni sur celui que Rose reçut dans la pension Scholl, et qui était au moins le meilleur pour elle, puisqu'il paraissait vouloir réussir si vite et si bien. M. Darveil n'aimait d'ailleurs pas beaucoup ce genre de dissertation pédagogique, si à la mode qu'elle soit aujourd'hui. De plus, il est de nouveau pressé, et force nous est bien de le suivre, laissant, comme lui-même venait de le faire, Rose demeurer à la ville, mais qui, aux vacances, se rejoindra dans son village, où il est déjà remonté depuis plusieurs mois. Ordinairement, dans les histoires du genre de la nôtre, les choses se racontent moins vite qu'elles ne se passent, l'auteur même en fait la remarque et il s'en excuse. C'est tout au rebours dans notre histoire. Des choses qui ont pris des mois dans la réalité sont racontées en une ligne. L'auteur s'en excuse aussi. Les auteurs font bien de s'excuser, quoique cela ne serve à rien. N'est-il pas vrai, ami lecteur, toujours plus ou moins ennemi? Lequel des deux serez-vous si nous ajoutons que les vacances se passèrent, que M. Darveil redescendit à la ville, qu'il y recommença son cours et regagna au printemps suivant la montagne, y attendant de nouveau sa jeune amie, avec Mme Scholl cette fois les autres élèves. Tout cela sans incident à noter, excepté peut-être en ce qui regarde Siméon Furet. Voyant bien que Rose n'était décidément plus pour lui, il trouva qu'elle n'était pas son affaire. Commença lui aussi à dire qu'elle était trop petite, quoiqu'elle fût grandie, mais toujours plus que jamais à l'idée de se marier, au lieu de tourner autour de la mère de Rose, il tourna plus directement autour de tante Mijon. Il est vrai, plus âgée que lui, mais qui possédait quelques lopins de terre et savait bien faire la cuisine. En route pour la quarantaine, elle n'hésita pas à tendre la main à un homme relativement jeune pour elle et qui la lui tendait. Elle devait même prochainement et officiellement la lui donner. Outre qu'il allait donc enfin avoir une femme, il s'était acheté un cheval avec lequel il serait charretier en hiver et guide en été. Il fut celui de Mme Scholl et de ses élèves dans leurs excursions alpestres. Il le fut ainsi de Rose, et quoique elle allât à pied le plus souvent, il lui tint quelquefois l'étrier, mais elle sautait toujours à terre avant qu'il pût l'y aider. Pauvre Siméon Furet! Mais tante Mijon, qui était bonne, sinon jeune et belle, et qui donnait toujours sa cuisine si propre et si bien rangée, tante Mijon, disons-nous, le mijotait. On peut bien croire que, durant leurs séparations annuelles, Rose ne se faisait pas faute d'écrire à son grand ami, comme elle l'appelait. Voici un fragment d'une de ses lettres. Quand je pense, et j'y pense toujours, à tout ce que vous avez fait pour moi, mon cœur se fond de reconnaissance et de bonheur, car c'en est un aussi de vous devoir tout cela, à vous et non à d'autres. Je ne voudrais le devoir à personne. Certes, vous m'aimez mieux que je ne vous aime, puisque vous me prouvez votre affection par des faits, tandis que je ne puis rien faire pour vous. Oui, je le sens, je suis heureuse de le sentir et de le dire. Vous m'aimez mieux. Mais il me semble impossible que vous m'aimiez autant, car vous méritez d'être aimé ainsi, et moi je ne le mérite pas. Quelquefois, il me semble même vous aimer plus que mon père et ma mère. Je me le reproche, mais non. C'est seulement sans doute que je vous aime autrement, comme un second père, comme celui qui m'a ouvert le cœur et l'esprit, élevé à une vie plus complète, et par qui j'espère arriver à une position dans laquelle je puisse aider mes pauvres parents, mais dont le meilleur à mes voeux sera encore d'y être arrivé par lui. Aussi est tout ce que je sais sur la terre de plus doux à aimer et à bénir. J'aime mieux Madame Scholl. J'aime bien, si bonne pour moi. J'aime bien mes amis de la pension, si prévenante et si gentille. Mais vous avez et aurez toujours dans mon cœur une place à part et unique. Vous me grondez. Et je m'arrêtais tout net quand je veux vous dire combien vous êtes bon. Il faut donc bien que je vous l'écrive. Adieu, mon cher grand ami. Votre petite amie, Rose Soucy. Ah, ces épanchements, ces épanouissements d'un jeune cœur naturellement tendre et vif, mais d'abord contenu et refoulé par la vie, M. Darveil avait eu lui-même comme un petit sursaut qui fut encore plus marqué à la lecture du passage que nous venons de transcrire. « se dit-il, « mais si j'étais un Arnolphe de comédie, je pourrais m'imaginer. » Mais avec un sursaut encore plus haut que le précédent, « Jean-Baptiste Darveil, fit-il presque à haute voix, je te défends de penser à ces choses. Non, Jean-Baptiste, tu ne feras pas cette folie, ni pour elle ni pour toi. Mais, continua-t-il en lui-même, après une nouvelle pause, si avec mes anciennes idées d'être ma bonne, elle s'en était fourrée d'autres dans la tête, une autre, oh, j'aurais fait par là de belles affaires. C'est qu'elle est capable de voir honnête, malheureuse. Mais oui, de belles affaires. Mais qui diantre aurait pu penser? Et à quoi diantre vais-je penser moi-même? Sur ces réflexions et d'autres du même genre, qui tantôt le fâchaient contre lui et contre elle, et tantôt le flattaient à ne pouvoir s'en défendre et à redoubler par là sa colère, M. Darveil demeura assez perplexe. Mais une lettre qu'il reçut après celle-là le remit bientôt dans son assiette. Rose continuait à le tenir au courant de ses études et de ce qui l'intéressait dans sa vie actuelle. Nous avons en ce moment, lui disait-elle, une exposition de tableaux, celle qui fait le tour de nos principales villes. Elle est maintenant à Lausanne. J'y suis allé avec tout le monde de la pension. Plusieurs tableaux m'ont intéressé. Et elle lui en décrivait quelques-uns, puis elle ajoutait à la suite. Et l'un de ceux qui m'ont le plus frappé, ces demoiselles, enfin les autres élèves, représente une petite fille dont on ne voit guère que la tête, et même de la tête guère que les cheveux plus hérissés encore que les miens, car elle lui retombe par devant jusque sur les yeux, comme si elle était triste et voulait pleurer ou ne pas voir. Ce tableau me semble assez joli. Il frappe, on le dit d'une bonne couleur. Pour moi, je n'y connais rien. Mais devinez ce que prétendent mes amis, qu'il me ressemble. Bon, moi, je ne trouve pas, mais elles l'assurent et m'en font la guerre. Bien à tort, puisque je ne connais pas même le peintre qui a signé d'un nom presque illisible au bas du tableau. Aussi avons-nous cherché dans le livret, et il se nomme Marcel. Et n'est-ce pas Gratien que vous appeliez le jeune homme qui nous jouait du flageolet dans le lointain? Bon, au reste, tout cela m'est bien égal. Je regrette seulement que vous n'ayez pas vu ce tableau pour m'en donner votre avis. J'y aurais bien plus confiance que dans ce qu'on en dit autour de moi. Ces demoiselles m'ennuient avec leur ressemblance. Non, 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 je n'y crois pas. Cela m'est égal. Pas tant, pas tant, fit M. Darvet en retournant ses mains l'une dans l'autre, avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude nouvelle. Il ne doutait pas que le tableau ne fût de Gratien, qui sans doute avait voulu garder l'anonyme, et il lui en sut gré. Mais si c'était réellement lui, que fallait-il augurer de là, en bien ou en mal? Enfin, M. Darvet pouvait du moins considérer plus tranquillement, plus impersonnellement les choses. Il en eut même un sourire tristement ironique, ou ironiquement triste, comme on voudra. Mais lui, qui était assez pressé d'ordinaire, résolut de ne pas l'être et de laisser venir les événements, car je ne sais quoi l'empêchait de douter qu'il en vînt. Rien, cependant, de plusieurs semaines. Mais un soir, tout à coup, Gratien arriva. Après les premières questions entre gens qui se revoient et ne sont pas fâchés de se revoir, « eh bien, vous n'avez donc plus peur que vous voilà revenu, » fit M. Darvet. « Oh non, j'espère que non, » répondit Gratien avec sa franchise ordinaire. « Mais j'ai été longtemps obsédé de cette image. Je ne pouvais la chasser. Elle me venait si obstinément au bout du pinceau que pour la sortir de ma tête, j'ai fini par la faire passer sur la toile. Ah oui, c'est donc cela. Un de mes amis me parle d'un tableau où j'ai cru reconnaître à sa description notre petit Rosse-Souci. Il m'en a dit du bien, mais le tableau est signé d'un autre nom que le vôtre, Marcel, je crois. Oui, c'est le nom de ma mère. J'ai voulu que ce qui m'avait inspiré ce tableau restât un secret, comme il est effectivement entre vous et moi. C'est très bien. Drôle de manière, toutefois, de se débarrasser d'une idée que de lui donner un corps, mais vous autres artistes, vous êtes comme cela. Enfin, la méthode vous a réussi, c'est l'essentiel. Réussi, oui, c'est de quoi j'ai voulu m'assurer en venant ici, pour tout vous dire. Suis-je vraiment guéri? Si oui, je reste, sinon j'en pars encore plus vite que l'autre fois. Dans ce cas, non, non, tranquillisez-vous. Vous le resterez, et pour ma part, j'en suis tout particulièrement aise. Rosse-Souci n'est plus au village. Ah, dit seulement Gratien. Oui, elle est placée. Comme domestique? Non, une place de confiance. Ben, mais il ne manquerait plus que d'être amoureux d'une servante. Mais on l'a bien guérie pour cette fois. Je suis sûr que la Croche-Mâtan en a faux petit bonnet blanc lilas à sa magnifique forêt de cheveux, ou qu'elle les emprisonne dans un filet de soie brûlante, ou qu'elle les tord et torture en tresse, que sais-je. Mais non, interrompit M. Darvet. Cependant, mais non, c'est plutôt, je crois, un petit chapeau rond ou ovale, je ne sais. Au fait, je n'y entends rien. Enfin, calmez-vous, puisque vous êtes calme. Un bonnet, un peintre, ben, je comprends. Mais c'est donc bien pouvoir vous assurer que c'est un petit chapeau, rond ou ovale. Là, s'arrêtent mes renseignements. Mais j'en aurai un bien plus gros à vous confier, si cela vous intéresse. Lequel ? Ben, c'est que vous auriez eu un rival. Dans le village ? Dans le village, répéta imperturbablement M. Darvet. Un certain Siméon Furet. Oh non, il mérite pourtant bien mieux. Il y avait bien pensé, mais non pas elle. Et l'autre, eh bien ? Oh, c'est bien, fit encore M. Darvet, mais avec un sourire allongé cette fois. Elle l'aime ? Je le crois. Ils doivent se marier ? Oh, pour ceci, je ne peux rien vous dire de certain, mais s'il avait quelque chose de conclu, je serais, je crois, l'un des premiers à le savoir. Bon, fait, cela m'est égal, dit Gratien, qui ne rappela plus l'entretien sur ce sujet. Quand ils se furent quittés, « Oh, je connais ce « ça m'est égal », dit M. Darvet. » Sans y mettre d'intention l'un ni l'autre, ils restèrent quelque temps avant de se revoir. Gratien était dans les montagnes pour y faire des études, avait-il dit. Mais en réalité, il passait ses journées à grimper de rocher en rocher, à errer d'étage en étage sur les hautes esplanades, sans qu'on pût le voir d'en bas, dit qu'il jouait ainsi du flageolet dans les airs. Si on n'avait pas entendu l'écho répéter les sons, on aurait pu croire que c'était l'écho lui-même qui jouait, ou le rocher qui prenait une voix. Effet singulier, presque fantastique, que cette voix invisible et aérienne s'élevant tout à coup dans la plus entière et la plus profonde solitude. À bout de provisions et ne pouvant toujours se contenter de celle des chalets, notre promeneur solitaire revint pourtant se ravitailler au village. « Ah, voilà !» dit M. Darvet. « Oui, mais je me ressauve. On dit qu'il va nous arriver toute une pension, et je ne me soucie pas de faire les meubles avec ces dames. »« Si, faites bien, moi, » reprit M. Darvet, « car je connais la maîtresse de cette pension. C'est une de mes vieilles amies, et il me faudra m'exécuter au moins pour quelques promenades avec elle et ses élèves. »« Sur les glaciers, les cimes, non, mais... » Sur l'école qui mène, je ne dis pas, si mes vieilles jambes peuvent encore me porter jusque-là. Et sur un de ces cols, poursuivit M. Darvet, qui le lui désigna, non, sur le passage même, mais à l'écart, au pied du glacier, parmi les monticules qui lui servent de degré et de rampe colossale, il y en a un couronné juste à son sommet, une saillie de rochers si plate et si unie qu'on la prendrait pour un banc fait de main d'homme ou plutôt de géants disparus qui l'ont laissé en souvenir d'eux et de leur race sur leur promenoir. J'aurais pas fâché d'aller m'y asseoir une dernière fois. Avez-vous remarqué dans vos promenades quasi aériennes ? Oui, certainement, dit le jeune homme. « Eh bien, pendant que je laisserai ces dames suivre le guide plus haut ou plus loin, vous devriez bien vous venir vous asseoir avec moi sur ce banc, si vous êtes par là. Mais apportez votre flageolet. Les parois environnantes ont très beaux échos, qui répètent plusieurs fois, de plus en plus bas, mais toujours distinctement, les 5 ou 6 dernières notes d'un chant ou d'un air. Je ne serais pas fâché non plus de les entendre. » Aussi, une dernière fois. Certainement, si ça vous est agréable, dit Gratien, quoique vous m'ayez fait la guerre sur mon flageolet. Oh, maintenant qu'il n'y a plus rien à craindre, que le rêve est fini. D'ailleurs, j'ai eu aussi la montre, mon petit flageolet. Va donc pour le vôtre. Allez, s'il fait beau, je vous donne rendez-vous pour après-demain. Le lecteur, mieux au courant que Gratien, aura compris que qui en attendait. Si notre jeune farouche s'en fût douté, il n'eût peut-être pas été si empressé à se réfugier de nouveau dans les hauts, loin et au-dessus des us humains. Madame Scholl, Rose et leurs élèves, car Rose était montée au rang de sous-maîtresse, arrivèrent en effet le soir même. Le lendemain, on déballa, on s'installa. Puis M. Darvet, recommençant d'être pressé, on se mit en course dès le surlendemain avec Siméon Furet et un de ses camarades pour guide, leurs chevaux occupés tantôt par l'une, tantôt par l'autre des jeunes filles, quand Mme Scholl et M. Darvet en descendaient. À l'entrée du col, déjà assez élevé pour qu'il n'y ait plus d'arbres, on a bâti une petite auberge d'été qui peut même loger quelques voyageurs. Après s'y être restauré et l'avoir prise pour quartier général, chacun poussa des reconnaissances à l'aventure ou dans le sens qui lui plaisait. Rose suivit Monsieur Darvet, qui, de proche en proche et tout en causant, la fit monter par un labyrinthe de petits vallons, tantôt tout fleurs, tantôt tout rochers, dont les détours paraissaient familiers à sa mémoire ou ne le laissaient pas chercher longtemps. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à ce banc naturel qu'il n'avait pas manqué de vanter aussi à sa jeune compagne. Ils s'y assirent, les pieds dans l'herbe fleurie et chaude de la bonne chaleur du soleil. Devant eux, sur l'autre versant de l'alpage, se dressaient d'un seul jet les hautes murailles crénelées des parois et des cimes qui semblaient enfermées et comme cachées ce petit monde à part pour en dérober la vue aux profanes. Près d'eux, presque à leur niveau, mais avec l'intervalle d'un dernier vallon vert, le glacier suspendait ses assises de glace et de neige, d'un blanc étincelant, mais coupé çà et là de larges et fortes ombres, selon les anfractuosités des pics auxquels il s'appuyait. Sa cascade, sortant par une bouche d'azur, s'élançait avec un bruit strident sur les pierres amoncées qu'il roule devant lui depuis des siècles. Si aiguë que fût cette voix, elle semblait la voix naturelle de la solitude, comme elle était la seule qui s'y fît entendre. Mais elle en accentuait plutôt le silence, elle ne le troublait pas. Il suffisait d'ailleurs de descendre de quelques pieds sur le monticule, dans le moindre repli de terrain, pour qu'on ne l'entendît plus, comme si elle eût cessé, tout à coup et tout à fait. Mais que l'on remontât de quelques gradins, ou même, en de certains endroits dans lesquels on s'était baissé pour cueillir une fleur, que l'on releva seulement la tête, la cascade vous lançait de nouveau son salut perçant et joyeux du haut des airs. C'est Rose, bien entendu, qui faisait toutes ces remarques. M. Darvet n'aimant pas les descriptions, mais de la part de sa protégée, il les tolérait, mieux que ne l'aura fait le lecteur. Oh, que je vous remercie de m'avoir amené ici, lui dit-elle. Tenez, ajouta-t-elle soudain, oh, il faut que je vous embrasse aussi pour ça. Quoi, vous n'aimiez guère les embrassements, je m'en souviens. Et avec sa vivacité d'impression, de mouvement d'esprit et de cœur, aussitôt dit, aussitôt fait. Il ne put s'en défendre, ou pour noter la chose au plus juste, il ne s'en défendit pas du tout, pas beaucoup. D'ailleurs, au même instant, on entendit le son lointain d'un flageolet. On ne le voyait pas, mais le son montait évidemment de leur côté, quoique d'un autre versant que celui par lequel ils étaient venus. De celui-là, on ne découvrait le sommet de l'éminence que lorsqu'on y était tout à fait. Gratien, la tête un peu penchée sur son instrument, se trouva donc en face du banc de roche qui n'avait pas achevé son air ou l'achevait à peine. Aussi, dans sa surprise, n'en laissa-t-il pas seulement tomber les dernières notes, mais l'instrument lui-même. Rose le ramassa prestement et le lui tendit, avec un sourire qui, de ses lèvres fines et découpées et de ses dents blanches, ne monta pas sans quelque rougeur jusque vers ses tempes, non plus hâlées, mais toujours d'un brun doré, sous les boucles que sa subite et folâtre embrassade venait d'y éparpiller. Gratien, muet, interdit, resta un instant sans prendre l'instrument, regardant celle qui le lui tendait. Il était pour se demander si ce n'était pas son rêve qui revenait le hanter et poser en quelque sorte devant lui, comme dans son atelier. Mais non, non, c'était bien elle, non plus à moitié enfant, mais jeune fille, et dans tout ce que son genre de beauté promettait. Pittoresque, originalité, grâce vive, avec plus de retenue et de mesure, mais non moins de naturel et de simplicité. C'était bien cette petite main, ces doigts menus, ronds et rosés comme le bras, que laissait un peu entrevoir cette main légèrement levée vers lui. Cette taille mignonne, toujours svelte et fine, quoique plus formée. Ce teint fait pour le plaisir du pinceau, et que le sien avait tâché de rendre comme il se le rappelait, c'est-à-dire, suivant une de ses expressions, comme sur des roses un rayon de soleil. Ses yeux d'un noir pétillant, sous ses boucles en ce moment soulevées par la brise, qui, loin de les défaire, ne semblait que mieux les enrouler, et pas la moindre trace de bonnet, seulement un petit chapeau rond au long ruban couleur feu, encore était-il déposé sur le banc. Oh, tout cela traversa les yeux et l'esprit de Gratien en quelques secondes, et représenté seulement par cette pensée, « Mais c'est elle !» Quoique, n'ayant pris guère qu'un coup d'œil, cet examen allait embarrasser Rose, sans pouvoir l'effaroucher et lui déplaire, comme autrefois, lorsque M. Darvet passait le premier étonnement de cette brusque rencontre, où il avait eu aussi son sourire à lui, il lui dit tranquillement, « Mademoiselle Rose, souci, sous-maîtresse dans la pension Sol, Monsieur Gratien, peintre du nom de Marcel. » Il eut l'intuition qu'elle avait vu le tableau. « Oui, c'est moi qui... Me pardonnez-vous » acheva-t-il. Elle était trop franche pour répondre, comme l'eût peut-être fait une autre. « Vous pardonnez quoi ?»« Reprenez d'abord votre flageolet !» lui dit-elle en riant. Était-ce un pardon ou seulement un aveu? Qu'elle avait vu son portrait et s'y était reconnue. Gratien aurait pu dire lequel lui préférait des deux, mais tous les deux, certainement. Devant elle, il ne pouvait adresser de questions à M. Darvet, qui, la présentation faite à sa mode, mais dans toutes les règles, ne paraissait nullement disposé à entrer dans d'autres explications. Il tourna l'entretien sur des sujets généraux qu'il est par conséquent inutile de rapporter. Gratien n'y entra pas. Rose, moins qu'à l'ordinaire, quoique ça et là, par quelques mots qui eussent montré au jeune homme combien aussi son esprit s'était développé. Mais il écoutait à peine et restait silencieux. Un monde de pensées lui ôtait la parole, plutôt qu'il ne la lui donnait. Seulement, il avait repris le flageolet sans mot dire. C'était ainsi à côté de M. Darvet, et quand celui-ci se tut, il se mit à jouer comme s'il était seul. C'était des motifs de la flûte enchantée. La vie est un voyage, l'air du chalumeau dont l'écho des rochers d'en face leur envoyait les notes les plus hautes, mais faiblement. « Mais chantez-vous quelque chose ?» dit M. Darvet à Rose, « pour voir si l'écho vous entendra mieux. » Elle ne se fit point prier, et d'une voix pure, assez étendue, elle dit une courte mélodie des Alpes, que les cours répétaient tout entière grâce aux pauses qu'elle y mettait. Et M. Darvet se reprit à causer de choses toutes plus indifférentes les unes que les autres, et sur lesquelles Rose seule savait de temps en temps lui donner la réplique un peu convenablement. Puis, comme on devait s'arrêter à la petite auberge où était le rendez-vous général, et de là descendre encore au village, il fallut bientôt commencer par descendre de l'éminence. Gratien, n'ayant nullement l'air cette fois de regretter ses hauteurs, et en tournant le dos sans s'en apercevoir. On s'éparpille toujours un peu à la descente, qui vous pousse et vous entraîne tantôt tout droit, tantôt à la dérive, selon ses caprices et ses tentations, pour ceux qui peuvent s'y prêter. Le seul M. Darvet y allait d'un pas méthodique. Rose, sans accepter ni bras ni aide quelconque, était toujours la première au bas d'une des ondulations du terrain. C'était plaisir de l'avoir si précipitée en riant, sans glisser ni broncher, légère comme un oiseau qui se pose, jette son cri joyeux et recommence. Gratien s'arrêtait pour la regarder, mais il ne tardait pas à la rejoindre, et se trouvèrent ainsi quelquefois rapprochés dans ces haltes où ils attendaient M. Darvet avant de se remettre à le devancer. Il parlait peu, Gratien n'osant s'aventurer à faire des questions, elle, par conséquent, n'ayant pas à répondre. À la dernière de ces haltes, cependant, où leur vieil ami se faisait un peu plus attendre, il lui dit simplement, mais au fond, pourtant plus que par manière de conversation, « Vous aimez donc bien, monsieur Darvet ?»« Si je l'aime, lui mon grand ami, mon bienfaiteur !» Et encore, dans l'animation de la course, elle se mit à crier à l'écho de toute la force de sa voix, « J'aime monsieur Darvet !» « J'aime M. Darvet !» répondit l'écho, sans manquer une syllabe. Ensuite, plus bas, mais comme plus loin et plus haut dans les airs, il répéta encore deux fois, « J'aime M. Darvet ! M. Darvet !» « Et moi aussi !» fit fièrement, derrière elle, la voix de Gratien. Elle se retourna vers lui avec un sourire d'intelligence, comme entre personnes qui se comprennent. « Et moi aussi !» répétait pendant ce temps l'écho fidèle. Ils varièrent ce jeu et ce thème au moyen duquel, sans se répondre directement, nous n'aurions pas juré qu'ils ne fussent déjà un peu sur le chemin de se répondre encore mieux. Aussi, quand M. Darvet les eut rejoints, Gratien le reçut-il d'un de ses plus doux et plus joyeux airs de flageolet qu'il conduisit cette fois jusqu'à la fin. Mais c'est ce que chante la somnambule quand elle a retrouvé son fiancé, pensa Rose, qui fut sur le point de le dire tout haut, mais sans se rendre bien compte pourquoi elle se retint. Arrivés à la petite auberge alpestre, M. Darvet présenta son compagnon à Mme Scholl comme un de ses jeunes amis de Genève dont il avait beaucoup connu le père. « M. Gratien, dit-il, sans ajouter le pseudonyme de Marcel, dont Rose non plus ne dit rien. » Gratien, qui détestait le faire l'aimable, savait pourtant l'être quand il le foulait, et l'était alors d'autant plus qu'il n'y songeait pas. Aussi fut-il admis sans peine dans la troupe voyageuse, et en devint-il bientôt partie intégrante et essentielle, tant que dura la villégiature de Mme Scholl et de ses élèves. Loin donc de se faire prier pour les accompagner au village, il n'eut pas l'air de penser que les choses puissent aller autrement, et sans le moindre coup d'œil de regret à ses hauteurs par lui délaissées, il rentra dès le soir même à sa pension, la même que celle de Mme Scholl et de ses élèves. Mais, quoique tout le monde, assez fatigué, fût allé se coucher de bonne heure, il ne permit pas à M. Darvet d'en faire autant, le suivit dans sa chambre, et dès qu'ils furent seuls, « Oh, je l'aime plus que jamais !» s'écria-t-il en se jetant dans un fauteuil. « Mais pas si haut, pas si haut !» fit M. Darvet. « Ces maisons de bois sont sonores, on pourrait vous entendre. »« Eh, qu'elles m'entendent, ne demande pas mieux !» Oui, mais Madame Scoll, les autres élèves, je vous ai dit qu'elle était sous-maîtresse. Ah oui, c'est vrai, dit-il plus bas. Quel malheur! Mais comment, quel malheur? Aimeriez-vous mieux qu'elle fût restée une pauvre montagnarde? Non, mais sous-maîtresse. Mais c'est un commencement de position. Eh oui, il en faut une dans ce monde. Oh, joli ce monde. Ben, il est certain qu'on ne peut pas y passer sa vie à jouer du flageolet. Pardon, pardon, reprit Gratien en se radoucissant. Oui, elle vaut mieux que moi. Elle vous appelle son bienfaiteur. C'est à vous qu'elle doit tout ce qu'elle est. Un peu à moi, un peu à mon amie Madame Scroll, qui la chérit. Mais elle le doit surtout à elle-même, à ses efforts, à sa persévérance, à sa petite tête vive, mais raisonnable. Oh, quelle tête, oui, charmante! Oh, ce n'est plus rien maintenant que mon tableau, mais je le referai. Encore le flageolet. Mais pourquoi toujours souffler sur mes rêves? Mais, s'écria-t-il de nouveau en se frappant le front, celui-ci s'en va déjà. Et ce rival dont vous m'avez parlé, ce rival. Ah, voilà, dit M. Darvet. Mais le connaissez-vous? Oh, assez mal, mais enfin, je le connais plus ou moins, puisque c'est autre que celui qui vous parle, ajouta M. Darvet, tout tranquillement et tout d'un trait. Vous? Oui, moi. Non, c'est un rêve encore, un mauvais rêve, fit Gratien à demi-voix et comme se parlant à lui-même. Mais écoutez, reprit M. Darvet, vous ne rêvez point, ni moi non plus, quoique vous soyez tenté de me le dire. Écoutez, mon cher Gratien, car j'ai aussi de l'amitié pour vous, comme j'en ai eu et beaucoup pour votre père. J'ai aidé Rose à devenir ce qu'elle pouvait être. Mais il lui faudra une position. Et la position d'une femme est d'avoir un mari. S'il ne s'en présente point, comme cela ne se voit que trop souvent pour des filles instruites, bien élevées, mais sans fortune, ou s'il ne s'en présente pas, qu'il soit digne d'elle, eh bien, je le saurai, faute de mieux, et lui offrirai du moins le peu que je possède. Vous l'aimez ? Fit Gratien d'une voix sourde. Oui, tendrement. C'est ce qu'on dit de l'affection des vieillards. Et, fit Gratien d'une voix encore plus sourde, vous avez sans doute lieu de croire qu'elle vous accepterait si elle ne trouvait pas mieux. Oh, mais non. Non, cette fois, je vous dis tout. Je ne sais, je ne crois rien. Oh, elle vous aime, elle vous aime. Elle n'a fait que de me le répéter. Bon, ben alors, il me faut repartir, je le vois bien. Et Gratien, se levant, prit son chapeau. Rasseyez-vous, dit M. Darvet. Il y a aimé et aimé. Et puis, écoutez encore ce qu'il me reste à vous dire, puisque nous y sommes. Faites-vous, faites-lui une position. Et je me retire devant vous, bien entendu, si vous lui plaisez. Vous n'avez que peu de fortune? Oh, je vis surtout de mon pinceau. Dans votre pays, c'est la guerre suffisant, à moins que l'on soit seul. Auriez-vous de la répugnance à donner des leçons? Bon, oui, une répugnance complète. C'est fâcheux. Mais pourquoi? Parce qu'on donne beaucoup de leçons à Lausanne, qui est une ville de pensionnats et d'écoles. Et je vous aurais proposé à Madame Scholl comme maître de dessin pour ses élèves. Et pour elle aussi? Oh, pour elle en même temps. Cela donne meilleur tour aux choses, n'est-ce pas? Mais il faudrait venir vous établir à Lausanne. Vous n'avez rien qui vous retienne particulièrement à Genève. Rien, oh non, j'ai plus mes parents. Des pinceaux, une palette, une boîte à couleurs sont un bagage facile à transporter. Mais il me faudra un atelier. Oh, je vous le trouverai. Est-ce dit, voulez-vous vous laisser conduire par moi? Rose l'a fait, elle ne s'en est pas si mal trouvée. Il m'a paru que vous, aujourd'hui, en jugiez de même. Pour toute réponse, Gratien se jeta dans ses bras. Bien, mon jeune ami, et maintenant allons dormir. Moi, du moins, car vous êtes bien capable de ne pas fermer l'œil toute la nuit et de la passer à courir encore, mon Evo, au clair de lune. Mais croyez-moi, ne rêvez pas trop éveillé. Laissez dormir les échos et votre flageolet. N'oubliez pas qu'il s'agit maintenant de vous faire une position et d'en faire une à Rose, et la plus honorable de toutes, celle que l'on gagne soi-même par son travail. Gratien passa-t-il cette nuit comme l'avait supposé M. Darvet? Nous le craignons, mais nous n'aurons pas le temps de nous en informer avec exactitude. M. Darvet est de nouveau pressé. Nous sautons donc avec lui par-dessus les semaines, les mois, l'automne, et nous trouvons Gratien établi à Lausanne, travaillant le matin dans son atelier et l'après-midi maître de dessin, entre autres dans la pension de Mme Scholl. Celle-ci fait grand cas de lui et le lui témoigne, n'étant pas de ces personnes qui ne témoignent à rien. Elle va s'associer Rose, qu'elle aime comme sa fille, et ne répugnerait pas à l'idée d'avoir aussi un fils par elle, et que ce fils fût Gratien. Au printemps suivant, le troisième de cette histoire, si nous comptons bien, les choses étaient déjà assez avancées pour que les deux jeunes gens fussent assis côte à côte l'un de l'autre dans la chambre de Mme Scholl, qui venait de les hisser seuls. Non content même de ce rapprochement de leur siège, ils avaient joint celui de leurs mains, qui faisait ainsi la chaîne avec un petit anneau d'or pour la mieux assurer. Quand ils se furent dit toutes sortes de choses sans presque parler, Gratien, assez brusque comme on l'a vu dans ses déterminations et ses idées, s'écria tout à coup avec le saisissement de quelqu'un qui pense à quoi il n'avait pas pensé, « S'il vous aimait !»« Mais qui ?» demanda-t-elle étonnée. « Mais lui, notre grand ami, notre bienfaiteur, à tous les deux, Monsieur Darvet !»« Certainement qu'il m'aime, » répliqua-t-elle. « Et moi aussi, je l'aime. Et vous aussi, comme disait l'écho, qui a commencé de me dire alors. Ce que vous ne me disiez pas, » ajouta-t-elle. « Eh bien, M. Darvet a eu l'intention de vous épouser. Vous ne voulez pas le croire, mais il me l'a dit. À moi-même. » Oh, cette révélation m'a fait bien du mal. Bon, non, c'était une de ses malices, car il est malicieux, notre grand ami, malicieux dans sa bonté. C'était pour vous exciter, car vous en aviez besoin, sans reproche. Vous en aviez besoin, monsieur. Mais s'il vous aimait comme je vous aime, si nous étions des ingrats, si nous allions le rendre malheureux. Écoutez, reprit-elle de son plus grand air de réflexion, mais toujours vive et enjouée, il ne m'aime point comme vous dites que vous m'aimez. Et la preuve, entre autres, c'est qu'il ne peut souffrir que je l'embrasse au lieu que vous. Mais à ces mots, il y prit une si belle rougeur que pour ne pas laisser à Gratien le temps de trop l'admirer, ajouta vite. « Allez, tenez, il va bientôt venir. J'embrasserai dès l'entrée. Vous verrez la grimace qu'il fera. » M. Darvet était incapable d'écouter aux portes, mais soit quelque connaissance de celle du cœur, soit le don de l'à-propos comme d'autres ont celui d'un contretemps, il arrivait d'ordinaire assez juste à point, en sorte que presque dans ce moment, il entra sans heurter. Rose lui sauta au cou, s'y suspendant des deux bras, se dressant sur la fine pointe de ses petits pieds, appuyant ses boucles de jais et sa joue de pêche sur cette joue ridée, sur cette barbe et sur ses cheveux grisonnants. Mais, à sa grande surprise, M. Darvet y laissa tout le temps qu'elle voulut y rester. Il y retint même, comme autrefois elle retenait le chevreau dans ses bras. « Et vous, Gratien, dit-il, à votre tour, ou plutôt en même temps ?» Le jeune homme mit sa tête et ses bras à côté de ceux de sa fiancée, et M. Darvet les entoura des siens. « À présent, dit-il, que vous allez être heureux, je le serai aussi de votre bonheur qui sera le mien. Je viendrai dîner tous les dimanches avec vous et ma vieille amie, Madame Scholl. Comme nous serons seuls, nous qui quatre, et non pas en plein air, Rose pourra m'embrasser tout à son aise. Et je vous le rendrai de bon cœur, mes chers enfants. » C'est ainsi que Rose Souci devint Rose Gratien. Comme elle vécut et apprit la vie, qu'on apprend qu'en vivant, elle resta plus ou moins de la famille de son père. Mais qui n'est pas de cette famille-là dans ce monde? Puisque, sans être absolument mauvais, il n'est pas et ne sera jamais le meilleur.